Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, avec Charlotte Langeret, notre invitée aujourd'hui, avec Christophe Cessieu, avec Denis Charvet. On vient de passer un super moment ouais. Avec Cyprien ouais. Sarrazin, double vainqueur à Kitzbühel,
qui est en train de
sa cour. Ouais, voilà, qui est en train de se reconstruire et qui nous a ouais. fait vivre effectivement ce qu'est une descente de Kitzbühel qui va débuter à 11h30. On est avec Lina Marjac sur place. Mais d'abord, eh bien, on va ouvrir la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a intéressé, c'est passé à l'Open d'Australie. La jeune française Elsa Jacquemot, 22 ans, est complètement sortie de son match au deuxième tour du tournoi, frustrée selon elle par la mauvaise tactique de son coach. Elle a complètement derrière perdu le fil de son match et elle a perdu en 2-7, 6-1, 6-2. Elle a même provoqué d'ailleurs le départ de son coach de la tribune, tellement elle était hors d'elle pendant la rencontre. On en a un peu parlé avec Cyprien Sarrazin il y a quelques instants et ses mots étaient intéressants. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Dans le sport de haut niveau, ça a forcément résonné aussi pour nos auditeurs et auditrices dans la vie de tous les jours. Comment on gère la frustration quand les choses ne sortent pas comme on le souhaite? Et on sait que pour vous, c'est déterminant évidemment où chaque chose compte. Denis, j'aimerais qu'on commence par toi. C'était un artiste sur les terrains de rugby en plus.
Cyprien Sarrazin nous dit qu'en fait, lui, il la gère bien. Donc c'est tant mieux, hein, je veux dire, c'est courageux. Et il a cette force-là. Après, il y a des moments dans ta carrière où, alors nous, je viens d'un sport collectif où t'es très dépendant quand même des autres, hein, forcément. Mais il y a des moments où tu perds ton jeu, quoi, tout simplement. Tu perds ton ce qui fait que, ben, parfois tu fais des différences et tout d'un coup t'as pas la même vision, t'as pas la même timing, tu dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, t'es au même niveau physique, mais tu te dis il y a des sensations sont pas là. Et c'est très curieux parce que ça peut durer un petit moment, ça dure pas éternellement, mais ça peut durer sur 2-3 matchs et tu te dis mais où est passé mon rugby quoi en gros.
Et tu comprends pas.
Et tu comprends pas parce que tu l'analyses, t'as du mal à l'analyser en fait. Et même si aujourd'hui je sais que c'est très dépendant aussi des autres, il y a des moments mais tu t'y retrouves pas, tu sais pas pourquoi et tu perds ce qui fait ta force et ce qui est très bizarre c'est qu'un jour mais tu retrouves des sensations, tu refais un bon match, un très bon match et tu te dis mais pourquoi? Et en fait tu te dis voilà et ça revient et tout revient dans l'ordre mais c'est très curieux.
Et t'es pas forcément accompagné en plus
à l'époque.
Toi tu parlais alors, avec tes coachs?
Non, très peu.
Pourquoi?
Ben, très
vous
peu.
Vous parlez pas entre vous, les garçons.
Non, mais
c'est intéressant ce que dit Charlotte.
En rugby, non, mais c'est vrai qu'on n'échangeait pas forcément beaucoup. Alors,
Mais surtout à ton époque, c'était quoi?
On n'était pas dans l'analyse comme aujourd'hui.
Il faut pas montrer ses faiblesses.
Ben, en rugby, non. En rugby, c'est un sport où tu montres. C'est très tabou en fait. À l'époque, c'était très tabou. Maintenant, ça devient un peu moins parce que il y a des joueurs qui parlent de leur dépression, oui, de leurs difficultés.
Un milieu très viril, surtout à ton époque.
Il y a beaucoup de virilité. Ouais. Donc, c'est vrai que à l'époque, c'était tabou d'en parler. Si t'étais pas bien, si tu traversais.
Mais en même temps, et donc tu t'enfermais dans ta frustration.
En même temps, la frustration, elle vient souvent de l'environnement aussi, ouais. De ta vie privée. C'est pas que le sportif, c'est le joueur aussi. Enfin, je veux dire, c'est l'homme qui traverse des moments peut-être difficiles dans la vie, mais on n'explique pas trop et c'est dommage. Je pense qu'à l'époque on devrait s'ouvrir davantage pour partager ces moments où mais t'as plus de doutes, t'es plus angoissé, sûrement pour des raisons extérieures aussi. Hein.
Tiens, ben pour rester dans les sports co, comment on gère la frustration, Charlotte, joueuse de foot, comment tu gères toi, la frustration? Tu gardes tout pour toi?
Non. Moi, j'étais quelqu'un de très expressif du visage, surtout pas forcément dans les mots, mais quand j'avais un regard, voilà, très très pesant, si j'étais pas contente. Mais je pense que c'est le temps, c'est apprendre avec le temps à gérer ses frustrations. Moi, j'étais très frustrée de l'injustice. J'en parlais beaucoup tout à l'heure, donc par rapport aux entraîneurs, par rapport à tout ça, l'injustice par rapport à mes coéquipières, tout ça. Moi, j'ai jamais été vraiment trop frustrée de mes performances. J'étais une joueuse très très régulière, défenseur central, où j'essayais d'être vraiment très régulière, d'être performante. Mais ouais, non, moi j'ai eu des gros soucis avec certains entraîneurs où pour moi ils étaient pas justes et ils ont perdu toute crédibilité à mes yeux. Et par contre, je me suis renfermée à moi-même. Et ça, c'était la première fois. Mais deux.
Ah, c'est-à-dire que tu gardes ta frustration surtout en toi, quoi.
Ouais, en fait, ça a fait un déclic un jour à un entraînement. C'était le moment où j'avais perdu mon brassard, où je trouvais ça injuste parce qu'on était tous dans le même bateau. Je pense, et pour moi, c'était pas juste de faire ça. À la fin d'un entraînement, je pleurais et je savais pas pourquoi je pleurais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est la première fois que je craque sans savoir ce qui s'était passé et pourquoi. Parce que on c'est que du foot, c'est que du sport. Je vivais de ma passion, j'étais professionnelle. Donc non, je pleurais.
Mais tu l'avais partagé ça ou pas? Ou t'avais pas?
J'étais partie de l'entraînement. À la fin, je pleurais et on a eu heureusement 3 jours de récup. J'étais partie un peu me ressourcer et pleurer toute seule dans la voiture. Tout ça m'est arrivé les 2 dernières années de ma carrière, alors que j'avais 27, 28 ans. Toute ma jeunesse, j'ai jamais eu trop de soucis avec les entraîneurs ou avec mes coéquipières. Donc, je me suis recentrée sur moi-même. Je me suis enlevé cette passion du foot. Pour moi, c'était plus une passion, c'était un travail. Et c'est là que je me suis dit, c'est un peu grave quand même. Parce que si maintenant t'as plus la passion, que tu perdes ou que tu gagnes, moi, j'étais dans cet état
de C'est-à-dire que pour gérer tes émotions négatives, tu t'es un peu dissocié, ouais, quoi.
Je me suis dit, je peux rien faire. De toute façon, c'est pas moi qui ai les clés du truc. C'est pas moi le coach. C'est pas moi qui prends les décisions. C'est comme ça. J'espère que ça va aller pour le mieux avec le groupe. Donc, je me suis recentrée sur moi-même, alors que moi, j'avais l'habitude d'être avec mes coéquipières, avec tout le monde, très souriant, très jovial et etc. Et là, je me suis renfermée sur moi-même pendant quoi? 3-4 semaines. Je broyais du noir. Je parlais à plus personne et ça a été très, très compliqué
pour
moi. Mais
t'aurais eu besoin à l'époque de quelqu'un d'interface pour t'aider?
J'étais toute seule. C'est parce que, en fait, si c'était
un. T'as pas été voir un psy ou.
Non.
T'as pas mis un psy.
Non, mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si t'avais eu quelqu'un qui t'aurait accompagné, ça aurait été quand même un plus, ça aurait été un avantage.
Oh, tu parles pour toi aussi, Denis, là, j'ai l'impression.
Bien sûr, non.
Il se confesse.
Non, mais bien sûr, c'est l'idée du vestiaire. Hein, ouais.
Mais évidemment.
Non, parce que dans ma tête, peut-être, hein, sûrement, mais dans ma tête, il n'y avait rien à faire. Donc, pour moi, c'était la fin d'une relation avec un entraîneur et une joueuse. C'était de l'injustice totale et puis je me suis dit il faut quand même jouer pour les copines et puis aller à fond. Donc ouais, j'ai eu des expériences très compliquées en fin de carrière.
Mais c'est intéressant parce que là on est vraiment dans la psychologie des sportifs de haut niveau qui parfois s'enferment un peu. Dans les sports collectifs c'est un peu différent.
Ouais,
par rapport au sport individuel, Marion, je m'en tourne vers toi, on est dans le vestiaire, comment gérer la frustration? Peut-être que tu ne te retrouves pas forcément dans les discours de Denis et de Charlotte, toi, sur ta carrière.
Je les entends complètement et mon mari est ancien joueur de foot professionnel et on a souvent ce genre de discussion où justement dans le foot, et ben t'es complètement tributaire d'un entraîneur ou même parfois d'un agent qui va être capable de placer dans un club ou pas d'ailleurs, et tu trouves qu'un autre joueur est moins bon que toi mais qu'il a la chance de pouvoir jouer dans un plus grand club parce qu'il a un meilleur agent, et donc il y a beaucoup de frustration.
Ouais, ça te bouffe de
l'extérieur. Ouais. Exactement. C'est vrai que la chance qu'on a dans le tennis, c'est que c'est le classement et que si t'as le classement, tu joues tout simplement. Donc il n'y a pas déjà cette frustration de se sentir rejeté en fait par injustice. Donc j'entends complètement ce que Denis et Charlotte évoquent. Pour ma part, pour moi, les frustrations que j'avais, c'était en termes de niveau de jeu, où parfois je trouvais que j'avais pas un niveau de jeu qui était acceptable sur le terrain et que je devais faire mieux. Et pour moi, la seule manière que j'ai trouvé de le gérer, c'était de travailler plus. Et l'immense chance que j'ai eue, et d'ailleurs aujourd'hui en étant maman, je me rends compte à quel point mes parents et bien sûr mon papa mais aussi ma maman ont fait des sacrifices colossaux pour moi, pour m'accompagner dans tous les tournois du monde entier, pour mon père être avec moi tous les jours pour essayer de trouver des solutions pour améliorer mon tennis, pour améliorer ma préparation physique, pour m'aider en fait via le travail à rester dans quelque chose de cartésien. Et ayant un esprit très très cartésien, ça me convenait extrêmement bien. Donc je pense qu'il y a des psychologies qui sont différentes forcément et que chacun le gère
l'environnement
possible.
Tu parles de l'environnement et est essentiel dans tous les sports en fait. Puisque l'environnement, toi, c'est tes parents qui t'ont aidé. Il y a quand même un environnement favorable.
Je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, le papa de Marion était ton coach, hein, Marion. Donc,
oui,
effectivement.
Et médecin aussi, donc avec aussi quand même beaucoup de notions de psychologie. Et il savait qu'il y avait des moments où, par exemple, après de grosses défaites, je pouvais m'enfermer dans une chambre d'hôtel pendant 3 jours et pas être capable de fonctionner. Donc, pas être capable de sortir du lit, pas être capable d'aller voir des gens dehors. Je faisais room service sur room service. Je restais 3 jours enfermé. Et il savait que pendant ces 3 jours-là, il ne fallait pas me parler parce que ce n'était pas la peine.
Non, mais c'est intéressant. Et toi, tu savais que tu avais besoin de ça, pour le coup. Dans ta gestion de frustration, tu savais que tu devais passer par là.
Exactement. C'était comme une petite mort. Il fallait que je renaisse de cette petite mort pour ensuite me remettre au travail. Et par contre, quand je m'y remettais, je mettais les bouchées doubles. Et Marion, c'est pour ça que voilà,
on a vu Elsa Jacquemot s'en prendre vertement à son coach l'autre jour
au tennis
dans ce match. Est-ce que toi il t'est arrivé comme ça de t'insulter avec ton père qui était aussi ton coach? Alors là, il avait une double voire une triple casquette dans l'histoire. Comment ça se passait au quotidien? Parce que souvent un joueur, une joueuse de tennis décharge sa frustration justement sur son coach. Mais quand c'est son père à la fois, c'est un peu plus dur, non?
Alors, lui vous dira que oui, moi je vous dirai que non. Donc on a des visions, on a forcément des visions différentes. Mais en revanche, là, ce qui m'a le plus choqué dans cette situation en particulier, c'est qu'elle s'en est permise. Enfin, Elsa s'est permise de parler extrêmement mal également à Lisée Cornet. Et ça, mais alors de ma vie entière, les capitaines de Fed Cup qui sont venus me voir jouer, donc j'ai eu deux capitaines, c'était Guy Forget et Amélie Mauresmo, mais jamais de ma vie j'aurais osé dire un mot envers Guy Forget et Amélie Mauresmo quand ils étaient assis dans mes box pour me voir jouer, parce que j'étais membre de l'équipe de France de Fed Cup. Donc ça, pour moi, c'est totalement...
Quoi, ta frustration, tu la règles avec toi-même?
Oui, tu la règles toi-même, mais pas surtout pas ton capitaine de Fed Cup. Là, si t'as même, de Billie Jean King Cup, si t'as plus ce respect-là là, tu peux pas, c'est pas possible.
Elle la paye pas.
Exactement. Elle paye coach, à la limite, un coach que tu payes, tu dis, c'est moi qui te paye, tu es mon employé, parce que le joueur tennis paye son coach, donc le coach est employé du joueur, entre guillemets, tu m'as donné la mauvaise tactique. Je peux l'entendre, mais là tu peux pas hurler comme elle l'a fait sur la capitaine qui a rien à voir.
C'était surtout sur son entraîneur qui a quitté après le terrain.
Oui, mais elle était juste à côté.
Exactement. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Je rappelle comment gérer la frustration. Je rappelle juste que dans un instant il y a les jeux du sport. Inscrivez-vous en envoyant jeu JEU au 732-16 JEU au 732-16 pour jouer avec les amis. Comment on gère la frustration? Marion disait que finalement elle travaillait beaucoup sur elle s'enfermait dans le travail. Toi, Denis, t'avais des trucs pour essayer de passer à autre chose?
Des trucs, tu veux dire personnels ou
ouais,
des...
je sais pas, pour te reconnecter à...
Ah, j'avais du mal, moi. Mais alors, c'est marrant parce
c'est
que
l'alcool, dans les années...
ça, on peut pas le dire.
une grosse méthode.
C'est pas l'alcool, mais je vois dans les années 90, le Stade Toulousain, on avait fait venir le président, le staff avait fait venir un psychologue. Et ce gars est venu donc a été présenté aux joueurs, mais personne n'allait le voir. C'était curieux parce que personne, il y avait quand même c'était très tabou à l'époque.
Ah bah à l'époque, oui.
Très novateur. Et moi, ce gars, je l'ai vu, je suis le seul à aller le voir, lui parler. Et ce mec, il comprenait pas pourquoi il était là, en gros. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui font appel à des psychologues. Et je trouvais que c'était tellement novateur et visionnaire à l'époque.
Non, mais même des psys, d'ailleurs, on fait appel à des psys, les préparateurs mentaux, pour être dans la visualisation, aussi, être dans la visualisation des situations qui ne marchent pas, pour essayer de trouver des clés, par exemple, pour faire les...
Roger Federer avait vraiment un truc sur le terrain, parce que lui, dans sa jeunesse, était très colérique. Il a eu beaucoup de problèmes de comportement. Il cassait des raquettes, il hurlait sur le terrain. Ses parents avaient honte de lui quand il faisait des tournois en Suisse. Et en fait, il avait trouvé un système. Il avait donc... on a toujours une serviette au bord du terrain, et donc il demandait la serviette, où il allait prendre sa serviette, il s'essuyait le front comme pour enlever le point qui venait de se dérouler. Et si vous observez bien, pendant ces matchs, il allait à la serviette qu'après un mauvais point. Il le faisait jamais après un coup gagnant.
Ouais. Donc c'était vraiment une
manière. Voilà, exactement. Évacuer de manière instantanée ce qui vient de se passer de mauvais et passer au point suivant.
Mais attends, tu faisais ça toi, Marion, quand t'étais sur le terrain? Un match, regarde.
Non, moi, tu sais bien ce que je faisais.
Tu tentes un amorti, ça passe pas. Derrière, tu dis, là, la Corse qui remonte en elle et tout. Pas vrai. Non, mais comment t'es
évacué? Non, mais moi, tu sais ce que je faisais.
Qu'est-ce que tu faisais?
Je refaisais à blanc le geste que j'avais raté.
Ma femme qui pète les plombs à chaque fois qu'elle joue au tennis. Marion, donne-moi des conseils.
Mais ça, c'est normal, tu lui envoies mal la balle. Je t'ai toujours dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais tu faisais quoi pour évacuer ta frustration, Marion? C'est intéressant.
Je refaisais à vide le geste que je venais de rater. Donc, moyen,
en fantôme,
pour passer.
Ghost.
Voilà, exactement. Shadow. Alors, on appelle ça Shadow. Shadow. Sharapova. Sharapova le faisait beaucoup. Maintenant, t'as Osaka qui le fait. T'as Swiatek qui le fait. Il y a beaucoup de filles qui se mettent à le faire. Mais en fait, il faut arriver à passer très vite à autre chose. T'as un point toutes les 20 secondes. Donc, si tu restes sur le point que t'as raté pendant 2 minutes, tu perds 2 jeux derrière. Donc, il faut arriver à passer très vite à autre chose. On n'a pas le temps de penser au point que tu viens de rater. Et pour arriver à passer à autre chose, il faut être dans l'action. Et l'action, c'est de refaire le mouvement que tu viens de rater. Et puis, tu
passes. Dans le sport collectif, c'est différent.
Non, mais ce que j'allais dire,
intérieurement aussi, aussi, Marion, quand tu rates un truc, t'as même une bouffée de colère qui vient en toi. T'en veux à tout le monde, t'en veux à toi évidemment, mais t'en veux à ton adversaire, t'en veux à l'arbitre, à tout ça. Comment t'arrives à faire retomber cette colère et arriver à te reconcentrer pour le point qui vient juste derrière?
Non, Marion,
c'est ça qui est
Marion, c'est
d'arriver
froid.
à revenir à son état initial. C'est ça qui me surprend. Et c'est ça l'avantage. Enfin, je veux dire, c'est ça qui fait un sportif de haut niveau. Parce que tous les sportifs du dimanche, justement, sont pris par la blessure. Alors que vous, qui avez
vous êtes des mammifères différents.
Ouais. Vous êtes
fait. Mais regarde, Rafa n'a jamais vu péter un plomb.
Vous avez un sang froid.
Oui, Rafa, non.
Alors, je suis très fière. J'ai jamais cassé une raquette de toute ma carrière. Depuis que j'ai mis une raquette dans les mains, 5 ans et demi jusqu'à maintenant. J'ai jamais cassé de raquette de ma vie. Mais je pense que ça dépend des personnalités de chacun, encore une fois. Effectivement, déjà, j'ai un self-control.
Ouais.
De base qui est assez élevé. Et si je vais m'en prendre à quelqu'un, c'est à moi-même. Donc c'est
Christophe
pour ça que je
moyen.
Me suis j'ai mal fait quelque chose, je le refais à vie pour essayer de mieux le faire la fois suivante. Mais je m'en suis jamais pris à l'adversaire, à l'arbitre, au bal, au vent, au soleil, à je sais pas quoi. Non, ça jamais.
Mais, non, mais ça, c'est intéressant. Charlotte, je rappelle comment gérer la frustration. C'est même comment évacuer la frustration. Parce que, non, mais sur le terrain, tu vas pas faire comme Marion, tu vas pas refaire un centre ou refaire une récupération de balle en fantôme. Comment tu te remets après avoir raté un geste? Tu rates une passe? Tu rates une intervention?
C'est vrai qu'en plus j'avais un poste de défenseur central, donc quand je loupais une passe, j'étais très frustrée. Mais
s'il y a but derrière, c'est ta faute.
Oui, exactement. Oui. Ou alors c'était mon intention, c'est moi qui démarrais les actions, les attaques placées, etc. Si je faisais le mauvais choix, après il y avait de la répercussion. Donc non, je me disais juste, c'était la bonne idée, c'est juste techniquement, je ne l'ai pas bien réalisé, mais j'avais souvent de bonnes idées.
Mais il n'y avait jamais de bouffée de colère, d'énervement.
Non, tu ne peux pas, parce que autour de toi, après, c'est différent, le sport.
C'est en ça que vous êtes des gens extraordinaires.
On se regarde. On se regarde. Il y a les leaders. Moi, j'étais aussi une leader dans l'âme, donc je me ressens très vite.
Tu dois montrer l'exemple, en plus.
Exactement. Si je pétais un plomb, il y avait tout le monde qui craquait, donc c'était pas possible. Donc j'essayais de me recentrer sur des choses qui comptaient vraiment. Si je me loupais sur des choses futiles, c'est pas grave, parce que je sais que les bases, je les ai, et que après, je vais retrouver le goût et le talent, on va dire. Mais je loupais pas trop de passes.
C'est la psychologie positive.
C'est vrai, oui. Moi, j'étais comme ça.
La visualisation aussi des choses positives avant les matchs. On parle de la frustration, mais aussi de bien se préparer. On visualise.
Oui.
Je pense que c'est dans tous les sports, des bons gestes, des bonnes passes, des bons choix pour se mettre en confiance et ensuite aborder.
Denis, tu faisais ça avant le match? Tu disais, je vais faire un cadrage débordement. Mon Dieu.
Non, tu disais pas ça. Tu en rêvais. Tu avais envie, mais c'est la concentration, la détermination qui faisait que c'est vrai que c'était essentiel de bien se préparer psychologiquement dans un match.
Tu te préparais comment, toi?
Pour revenir.
Mais c'est vrai, tu te préparais. Tu visualisais, toi, le match avant?
Visualiser, non.
Des choses que tu voulais tenter?
Oui, tu penses à des choses, oui, bien sûr. Tu penses à des gestes, tu essaies d'être dans. Je crois d'être très précis, en fait. Mais après, c'est vrai que nous, on est un sport collectif où parfois, tu manques une action déterminante.
Mais j'ai une question pour toi.
Et il y avait tellement de. Ça, comment dire? C'était tellement influent, ça influe tellement sur le collectif, ce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des situations personnellement. C'est pas un sport individuel. C'est la différence entre Marion et nous. C'est que nous, on est tellement dépendants. À un moment donné, fais un mauvais geste.
Et puis, tu sens la culpabilité par rapport aux autres aussi.
Oui.
Marion.
J'ai une question pour Denis et Charlotte, parce que j'ai écouté un interview de Tom Brady, donc justement dans les sports collectifs, qui lui aussi est très leader dans son état d'esprit, qui a expliqué que pour arriver à très bien jouer les matchs du Super Bowl, qui bien évidemment sont les matchs les plus importants, c'est parce que tous les jours à l'entraînement, il mettait autant d'intensité que si c'était une finale du Super Bowl ou un match de Super Bowl, qu'il arrivait finalement le jour où c'était un match important à mettre cette intensité-là, parce que ça devenait tellement une routine. Est-ce que vous les préparez comme ça aussi, ce genre de match? Enfin, c'était votre préparation quotidienne aussi.
De toute façon, je vais te dire, tu te préparais mal, tu jouais mal. Toujours, on dit.
Ça dépend des gens. Ça dépend des gens.
L'entraînement, oui, mais c'est toujours important d'être déterminé, de reproduire en match ce que tu fais en entraînement. Moi, j'ai toujours été, par rapport à ça, j'étais.
Mais je suis complètement d'accord. J'étais comme ça aussi. Je mettais l'exigence, j'étais au max à l'entraînement. Mais il y a des gens, il y a des joueurs ou des joueuses qui n'ont pas besoin de ça, qui ont envie d'être relâchés à l'entraînement pour se mettre dans leur bulle pendant les matchs. Et je trouve ça, mais incroyable, parce que moi, j'étais pas comme ça. Je comprends pas qu'aujourd'hui. Ouais, c'est rare, mais. mais je vous jure, moi j'avais des coéquipières, elles étaient en claquettes chaussettes à l'entraînement.
Attendez, c'est pas si rare, hein. Bernard Hinault par exemple, on sait qu'il détestait s'entraîner, ouais, Marc Madiot nous le disait, il s'entraînait pas beaucoup et puis derrière il arrivait sur les courses et il écrasait tout le monde. Donc
oui, mais après tu sais, il y a des faux semblants. Regarde Roger, il avait l'impression on avait l'impression qu'il s'entraînait pas et qu'il faisait entre guillemets clown, mais les heures d'entraînement passées quand il y avait pas de caméra, mais c'est vrai. Ouais. Tout le monde, toute la perception générale, c'est de dire bah Roger, c'est le tennis, c'est il est né, il avec un don surnaturel, il n'a pas besoin de faire d'efforts et tout est fait comme ça avec du génie. Mais les 5 heures d'entraînement, les 6 heures d'entraînement, quand il n'y avait aucune caméra et qu'il les faisait en préparation physique ou sur le terrain, il les a fait bien évidemment comme les autres pour arriver à avoir une telle maîtrise. Donc je pense qu'il y a aussi ce qu'on veut bien laisser paraître de l'extérieur et les heures quand même qui doivent être passées.
Voilà, comment gérer la frustration, je pense pas. Oh ben voilà. Bah, je suis un peu frustré par avoir terminé ma phrase, mais
voilà. Alors tu la gères comment ta frustration là maintenant?
Allez, je visualise. Je vais réussir à bien avancer ce jeu. C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour PSG Newcastle le 28 janvier à 21h au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Je referme la porte du vestiaire. Vous avez été excellent. Christophe Cessieux a tout écrit pour pouvoir gérer sa frustration dans quelques instants au jeu du sport.
C'est pas la mienne, c'est la frustration de ma femme. Là.
Personne ne te croit.
S'il vous plaît.
Personne ne te croit.
Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il vous plaît, pour les jeux?
Non, d'accord, tu vas perdre.
On dit toi à l'antenne maintenant. Est-ce que je pourrais avoir un café? Est-ce que
je suis désavantagé.
Mais t'as qu'à me dire avec un stylo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Un cerveau qui fonctionne.
Pour noter les réponses. Très mal placé pour parler avec Christophe là-dessus.